Bien, je vous propose de commencer le séminaire. Et je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir le professeur Olaf Blanke. Je vous dis tout de suite qu'il va s'exprimer en français. Alors je vois que ça réjouit certains d'entre vous. J'aurais dû le dire avant, évidemment. Olaf est francophone et il exerce ses activités de recherche, mais aussi de neurologue à Lausanne. Il est professeur à l'EPFL à Lausanne et il dirige un laboratoire qui mène des recherches extraordinairement originales. C'est pour ça que je lui ai demandé de venir aujourd'hui. Je remercie d'avoir accepté cette invitation. Son recherche est extrêmement originale parce qu'elle pose une des questions les plus difficiles qui soit. Je me souviens dans le cours de l'an dernier que j'avais dit que cette question était vraiment extrêmement difficile à aborder par l'expérience. C'est la question de la conscience de soi, le point de vue personnel. Qu'est-ce que c'est que le soi, et en particulier comment est-ce qu'on s'attribue un point de vue particulier par rapport auquel dans l'espace, typiquement situé dans notre corps, on juge la présence de notre monde intérieur et la distinction entre l'intérieur, le soi et l'extérieur. Et ce que Olaf va nous montrer, c'est qu'il est possible de manipuler ce sentiment d'un point de vue personnel et de rendre compte de cette expérience qui a été rapportée parfois d'un sentiment de sortie du corps. Quand j'étais adolescent, ce sentiment de sortie du corps entretenait toutes sortes de petits livres curieux de parapsychologie. Je pense que vous en avez tous vu. Et c'était tout à fait fascinant, mais évidemment, c'était complètement absurde. Et aujourd'hui, je trouve ça absolument remarquable qu'on arrive à proposer des modèles qui sont encore hypothétiques, mais qui commencent à être validés par des expériences, y compris des expériences d'IRM, qui nous font comprendre en partie d'où vient ce sentiment d'avoir un point de vue subjectif sur le monde extérieur. Et donc, sans plus attendre, je remercie à nouveau Olaf Blanke de nous donner cet exposé sur la conscience de soi et le point de vue personnel. Merci.
Je vais m'asseoir au début. Alors, merci beaucoup déjà pour l'invitation, c'est un grand plaisir, et pour l'introduction. On verra si vraiment ce point de vue subjectif, c'est manipulable. Et voilà, j'aimerais bien vous proposer quelques études donc sur la conscience de soi, un point de vue corporel de la conscience de soi, et bien évidemment, dans ce cours ici, donc les données des neurosciences cognitives. Des données, en fait, ma présentation sera séparée en trois grandes parties suite à une brève introduction. La première, les données de la neurologie comportementale ou cognitive. Troisième partie, les sciences cognitives, pour finir avec une expérience de neuroimagerie à la base de l'IRM fonctionnel, tous sur le problème de conscience de soi corporelle. Il y aura donc très, très peu de philosophie. C'est normal, je ne suis pas philosophe, je suis neurologue et chercheur. Et en plus, bien évidemment, c'est un terrain qui est vaste, énorme, et pas abordable, bien évidemment, je pense même si on prend la durée totale de janvier et février. Donc j'aimerais vraiment parler des données empiriques, parce que je pense, comme dans beaucoup d'autres domaines des neurosciences cognitives, le système du langage, la mémoire, je crois des données empiriques, et surtout, et ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, aussi l'approche neurologique suite à des troubles du cerveau, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur la fonction chez l'homme sain. Donc une approche, si vous avez entendu de Broca, d'Egerine, Wernicke, donc dans l'aphasie, dans la parole, dans le langage oral ou écrit. Donc une approche qui reste très valide aujourd'hui, même si, et là je me termine avec cette introduction, suite à une révolution dans la neuroimagerie, je pense que cette approche clinique reste très valide. Alors, qu'est-ce que c'est le self? Je vais utiliser le terme anglais. Qu'est-ce que c'est le self, le moi? C'est difficile déjà à définir. Donc il y a beaucoup de définitions. Je vais vous proposer aussi une au début, puis peut-être une autre à la fin, que je pense est plus basée sur des données empiriques. Donc on trouve plusieurs notions, comme vous voyez à l'écran. que déjà, je continue avec l'introspection. Donc apparemment, le moi est directement accessible par l'introspection. En tout cas, nous avons cette impression. Et c'est d'ailleurs le moi qui est censé être l'introspecteur, si on veut. En plus, le moi, the self, seems to be in direct contact with the self. Moi, je suis le self. Je suis quelqu'un. Donc, tout c'est des sensations fondamentales pour la personnalité, pour nous, pour l'homme. Et puis, le soi est le sujet de la perception, de la conscience, de la pensée. Et puis, la liste, elle continue. Bien sûr, donc, j'évoquais déjà ça. Donc, il y a une tradition énorme que je ne vais pas évoquer ici. Je vais peut-être évoquer David Hume, qui est très proche vers cette direction qu'il s'agit d'une fiction. En fait, je vous laisse lire cette phrase assez connue, qu'il est incapable de trouver d'autre chose qu'une perception, chaleur, douleur, visuelle ou autre, mais c'est impossible pour lui de trouver le moi en question, donc une sorte de soi qui est à la base de cette perception. Donc, le moi comme sujet introspectif pour Hume, c'est pas possible. It's like he says, a bundle of perceptions, une agglomération de toutes ces perceptions possibles dans une vie. Et il le décrit, compare avec un théâtre qui est en train de changer sans cesse. On trouve, donc ça c'est la définition du moi, du self avec lequel j'aimerais commencer, que le moi est distinct de l'environnement physique et social, donc d'autres personnes plus la table devant moi, et nous avons tous l'impression, je cherche juste ma montre, l'impression qu'il y a une attribution, une auto-attribution, une self-attribution de la pensée, des perceptions, mais aussi des actions. Donc c'est moi qui est en train d'effectuer cette action de ma main droite, qui sont également donc deux parties essentielles du moi. Une définition que j'ai prise dans le livre intitulé « The Self » de 2003. Si on compare avec l'argument fictif de David Hume, quelqu'un qui vient venu du même pays, John Locke, on trouve tout à fait une autre notion du self. Et là, in consciousness, we find a thinking intelligent being that has reason and reflection and can be considered or can consider itself as a self. The same thing in different times and places. Alors avec la description très low level ou bas niveau de David Hume, ici vraiment à tout l'opposé, quelque chose qu'on trouve dans les notions encore aujourd'hui partout, nous avons tous cette impression, d'une manière introspective, qu'on est quelqu'un. Il y a quelqu'un, un intelligent being, qui est responsable des actions, des pensées, etc. Donc là, vraiment deux extrêmes sortant du XVIIe siècle, les deux. On trouve aussi donc, deux dissociations que je marque en bas de la page. Donc une partie réflexive du self, très proche par rapport à l'approche de Locke, et quelque chose de pré-réflexif, plus automatique, plus intégratif des sensations multimodales continues. Donc moi, le modèle des données vis-à-vis de la conscience de soi que j'aimerais vous présenter aujourd'hui sont donc en relation avec ce self pré-réflexif. Il y a beaucoup de définitions aussi par des scientifiques qui commenceront un peu plus tard à définir le self. Ici, un psychologue, Ulrich Neuss, en 87, qui décrit cinq entités différentes du self. Il y a une partie écologique, très proche par rapport à la notion de Hume, de nouveau quelque chose d'intégratif, proche par rapport à des perceptions et l'intégration. Donc c'est moi en relation, ou c'est mon corps, vu par le cerveau, en relation avec l'environnement physique. Deuxième self, c'est la façon sociale du self. Donc là, ce n'est pas mon corps en relation avec le monde physique, mais avec le monde social. Par la suite, il a mis le terme extended self, qui inclut les aspects de la mémoire, qui inclut aussi des aspects du langage, donc des aspects cognitifs, plus haut niveau du self. Un autre aspect qui est encore plus élevé, conceptuel, des notions conceptuelles, et puis une notion un peu, à la fin, beaucoup moins décrite que les autres aspects, donc une partie privée du self, plus liée à des aspects subjectifs. D'autres neuroscientifiques, neuropsychologues ont essayé à redéfinir et à donner leur propre avis sur le self. Donc, il y a une explosion récemment aussi vers des approches différentes pour expliquer, investiguer le self. Donc ici, j'ai marqué plusieurs notions. Donc, on retrouve par exemple l'extended self de Neisser sous forme maintenant spécifique de la mémoire. Quel est le rôle de la mémoire pour le self? C'est évident. Je me rappelle que la dernière fois que j'ai pris le TGV entre Genève et Paris, donc c'était moi dans le train. Donc il y a une continuité à travers le temps, un élément important pour le self. Et puis malheureusement, je trouve très peu de recherches sur quelque chose qu'on appelle la mémoire autobiographique. Je vais donner un exemple tout à l'heure. Un exemple également très important, avec beaucoup de recherches actuelles, la reconnaissance visuelle, dans la glace par exemple, dans le miroir. Ce n'est pas du tout une tâche facile, comme la psychologie développementale a démontré. Ça naît à partir de 18-24 mois que l'enfant réalise que l'image reflétée est en fait son reflet et pas quelqu'un d'autre dans le monde social auquel il est exposé. Je vais également vous montrer quelques aspects là. On trouve cette notion d'identification de soi avec cette image reflétée aussi chez quelques animaux. La partie de nouveau très haut niveau, la cognition ou les concepts, la pensée, que je ne vais pas détailler plus en détail. Donc je vous laisse juste peut-être le nom cogito ergo sum, donc une pensée bien évidemment inscrite dans la pensée occidentale, très importante pour un modèle pour le self. Le langage, je viens d'évoquer plusieurs conditions. Bien évidemment, je peux référer par le système du langage vis-à-vis mon corps, vis-à-vis moi, vis-à-vis cette entité auquel j'ai accès par l'introspection, par exemple. Quelque chose qui est actuellement très important aussi, l'arbitre libre ou les intentions, la sensation d'agentivité. Également, cette sensation d'attribuer mindness, une conscience de soi à une action effectuée par moi, donc c'est une ligne de recherche également importante, comme les approches sociales vis-à-vis de self. Mais mon argument va être que toutes ces façons de, bien évidemment, c'est logique que les neuroscientifiques vont regarder le self à travers ces systèmes, les systèmes de leurs expertises, mais je vais argumenter aujourd'hui que ce n'est pas assez fondamental pour avoir une explication qui va directement expliquer, enfin pas expliquer, mais aborder la conscience de soi. Ça sera plutôt la partie reconnaissance visuelle de la conscience de soi, de la mémoire vis-à-vis la conscience de soi. Donc c'est une explication partielle du problème qu'on s'est posé aujourd'hui. Pour la reconnaissance des visages, donc voici l'exemple que j'ai évoqué. J'ai évoqué également que chez des primates, des singes notamment, il y a une capacité de détecter avec un miroir une tâche, par exemple, qui était appliquée par un expérimentateur au niveau du front, derrière l'oreille, avec donc l'outil du miroir. Donc là, il faut une conception d'un schéma corporel ici, d'une conscience de soi, pour utiliser cet outil visuel, spéculaire, pour regarder son propre corps. Cette technique a été aussi utilisée, donc les images visuelles de soi qu'on voit souvent dans les miroirs, opposées à des visages connus. Et puis il y avait on peut morpher ces images par exemple, et suite à une stimulation ou une anesthésie d'un hémisphère, on peut demander au sujet ce qu'ils sont en train de voir sur cette image morphée. Et selon l'hémisphère anesthésié, la réponse, elle change. Notamment, cette image qui est donc moitié-moitié sujet ou Marilyn Monroe, suite à une anesthésie dans l'hémisphère droite, le sujet voit les visages de Marilyn, comme il y a un déficit dans le système pour la reconnaissance de son propre visage. Et puis, bien évidemment, cette même technique de présenter des images morphées a été associée à l'imagerie, à la neuroimagerie, pour détecter tous les réseaux en détail impliqués dans cette tâche. On voit donc ici, par exemple, quelque chose qui va revenir aujourd'hui, une prédominance de l'hémisphère droite dans cette tâche conscience de soi, dans le sens ou sa façon reconnaissance de son propre visage. Juste, je vais brièvement évoquer les images du sujet neuropsychologique probablement le plus connu, fameux. Donc, c'est le sujet HM qui, suite à une lésion de l'hippocampe antérieure, comme vous voyez ici, il manque l'hippocampe de structure neuroanatomique ici, qui avait perdu sa mémoire déclarative. Il aura aussi donc perdu sa mémoire d'une façon antérograde. Il ne pourrait plus enregistrer des nouveaux éléments aperçus ou réfléchis. Qu'est-ce que c'est ? Malheureusement, le self de HM est très, très peu examiné. Je trouve une lacune incroyable, étant donné qu'il y a certainement 200 articles qui ont été effectués, qui rapportent des données chez lui, mais il y a très, très peu de données sur qu'est-ce que c'est le self de ce patient en question. Les chercheurs disent qu'il a encore un self, mais est-ce qu'on peut avoir un self sans système de mémoire déclaratif? Ça sera une question fondamentale. Mais en tout cas, les peu de données qu'on a suggèrent quand même que le self, la conscience de soi, persiste aussi chez des patients sans mémoire, qui sont, bien évidemment, si on retourne juste à l'image ici, un argument contre que la mémoire peut de manière fondamentale expliquer qu'est-ce que c'est la conscience de soi. Pour ça, je vous montre ces deux exemples. Alors, je ne vais pas vous parler de la mémoire ni de la reconnaissance de visage, mais je vais parler donc de la conscience de soi corporelle, comme j'ai introduit. Et là, c'est pas du tout une approche nouvelle, elle existe historiquement. Je viens donc, comme Stanislas a évoqué, de la neurologie. Donc là, on trouve une ligne de recherche sur le schéma corporel et sa relation avec la conscience de soi. Donc ici à Paris, les travaux de Jean Lhermitte, Henri Eccan, Ajuri Agüera, qui va par la suite travailler en psychiatrie à Genève, et bien évidemment l'école neurologique de Vienne et puis de Londres avec Het, Schilder et Menninger-Lerchenthal. On trouve ces notions, comme je disais, également dans les approches psychologiques chez Neisser et Gibson aussi, et récemment aussi chez plusieurs philosophes. Donc les observations, là je vous montre un exemple de l'école neurologique de Vienne. Donc là, les neurologues, suite à une lésion massive, comme vous voyez ici dans le lobe pariétal à droite, on observait par exemple des symptômes appelés somatoparaphrénie. Il s'agit là d'un déni d'appartenance du membre supérieur gauche du patient à sa conscience de soi, sa manque. Elle est jugée d'appartenir à quelqu'un d'autre, à une autre personne. Juste pour vous donner un exemple, on trouve ces phénomènes bien évidemment en 1924 et aujourd'hui dans tous les hôpitaux. On trouve également ici une observation plus récente de Genève, suite à des lésions, surtout de l'hémisphère droite, déjà évoquées dans la reconnaissance de son propre visage, et notamment suite à des lésions dans l'insula et dans la jonction temporoparietale. Mais j'aimerais donc introduire c'est une longue introduction finalement que j'ai fait, mais qu'est-ce que je propose comme conscience de soi corporelle comme exemple. J'aimerais vous présenter un exemple d'un patient présenté par Peter Halligan, donc des patients avec des membres frontaux. Donc phénomène fréquent. 95% de cette population souffre au début d'un membre fantôme qui va par la suite, ce pourcentage, descendre. Mais cela nous dit déjà que l'expérience d'être propriétaire d'un corps, d'un bras, dans ce cas ici de l'avant-bras droit, nécessite pas l'existence de cette partie physique de son corps. Il suffit, et ça c'est les travaux de Ronald Melzack qui l'ont montré, d'avoir une représentation corticale, cérébrale de ce bras. Inné même, il y a des données que Ronald Melzack a également observé. Donc il suffit d'avoir une sensation, pour avoir une sensation de bras droit, ça suffit d'avoir un cerveau qui représenterait ce bras, ou qui a, dans ce cas ici, représenté ce bras avant l'amputation. Donc le membre fantôme, il est représenté, c'est ici fait par un artiste qui a travaillé avec Peter Halligan en 2002. Le patient sent non seulement la persistance d'un avant-bras essentiellement de la main, mais il la sent aussi dans une certaine position. Et en plus, cette sensation est identique par rapport à la sensation qu'il a pour sa main contralatérale. En plus, ce n'est pas simplement une main droite, c'est sa propre main droite. Donc il y a une sensation de attribution à lui-même qui est également présente. Incarné, on pourrait dire. C'est une sensation, une expérience incarnée. La question que j'aimerais proposer, et c'est la ligne de recherche qu'on poursuit, est-ce qu'on trouvera des exemples empiriques pour, pas seulement une membre fantôme, mais un corps fantôme chez des patients, ou est-ce qu'on peut les enduire d'une manière expérimentale dans le laboratoire? Et c'était évoqué dans l'introduction, les sensations de sortie du corps ou de décorporation, on les envisage sous cette forme, que là, il s'agit d'un corps fantôme que nous, on essaie de comprendre sous la forme identique au niveau fonction et structure cérébrale probablement dissociée par rapport à l'exemple du membre fantôme que je viens d'évoquer. Alors, qu'est-ce que c'est des décorporations? Il y a le corps physique. Chez vraiment la grande partie des sujets qui rapportent ces sensations, qui sont souvent en position couchée, et on a l'impression qu'il y a un deuxième corps qui est en suspension, souvent 2-3 mètres de distance du corps physique, et puis que le moi, la conscience de soi, elle n'est pas localisée ici, mais elle est ressentie d'être localisée en suspension, si vous voulez, dans un espace qu'on peut appeler volume ou avec souvent aussi un point central, donc une perspective de la première personne qui est également congruent avec cette position élevée à 2-3 mètres du corps. Donc il y a ces trois phénomènes clés de la décorporation. Il y a une self-localisation extracorporelle. Je suis localisé en dehors de mon corps. C'est une sensation consciente qui est rapportée par le sujet, qui a donné le nom à l'expérience. Il y a une première personne, il y a une perspective de la première personne congruente spatialement avec cette self-location, et finalement il y a une identification, pas avec le corps physique, mais avec le corps en suspension. Je passe à des exemples donc de la neurologie, des sensations donc du corps fantôme ou de décorporation. Ici un exemple d'une patiente qui souffre d'une épilepsie pharmacorésistante, qui nécessite souvent l'implantation des électrodes afin de mieux localiser le foyer épileptogène, dissocier ce foyer épileptogène des fonctions essentielles comme le langage et le contrôle moteur. Et cette patiente, lorsqu'elle était dans cette phase d'évaluation, elle décrit donc une décorporation que je vous laisse lire, donc, qui est 100% comparable avec les cas de décorporation qu'on trouve décrits dans les livres de parapsychologie. Exactement, donc une phénoménologie qui est identique, mais ici dans le cadre d'une épilepsie, d'une crise partielle complexe dans le foyer épileptogène. Je vais vous montrer dans un bref instant. Mais là, on voit par exemple qu'elle avait l'impression qu'elle était en train de flotter à 2-3 mètres, donc sous le plafond de la pièce, et elle a vu son propre corps en vue frontale. Et puis voilà, la scène était assez réaliste, ça faisait un peu comme dans les rêves, mais elle était réaliste en couleur, etc. Donc, on trouve donc les trois phénomènes de la décorporation ici. Juste pour vous montrer, donc je vais montrer d'autres exemples avec cette technique. Donc on voit la craniotomie qui est assez large, le nez se trouve ici, l'oreille ici, donc on voit l'emplacement des électrodes. Donc là, par exemple, ces éléments ronds, c'est des électrodes qui sont posées par des neurochirurgiens qui nous permettent par la suite d'enregistrer les crises épileptiques de la patiente ou d'autres patients, et également de stimuler, deuxième exemple que je vais montrer tout à l'heure, entre deux de ces électrodes pour voir effectivement ici un trouble du langage, par exemple, dans cette partie du cortex. Le foyer épileptogène, si vous voulez, la cicatrice épileptique chez cette patiente qui nous rapporte cette décorporation, cette sortie du corps, est donc localisée au niveau de ces 8 électrodes en bleu, donc au niveau de la jonction temporoparietale, ici au niveau de l'hémisphère gauche. Donc le sillon central, vous voyez ici, il y a le sillon latéral, le pariétal et temporal ici avec le lobe occipital. Après. Ici, une observation probablement plus parlant encore, parce que là, lorsque un courant électrique de faible intensité est appliqué au niveau de ces deux électrodes, la patiente rapporte également une décorporation, mais uniquement pendant les 2 secondes de la stimulation. Donc là, on avait pu observer comme, en fait, on va allumer la lumière dans une pièce, ou l'étendre, que là, en mettant ce courant électrique pendant 2 secondes à cet endroit précis, il y a lieu d'une décorporation, également caractérisée avec ces 3 phénomènes phénoménologiques. Donc, décorporation, sensation d'être en dehors de son corps, sous le plafond, d'avoir une perspective de la première personne qui est congruent avec cette localisation, et de s'identifier avec ce corps en suspension. Quelque chose qui était intéressant ici, on ne peut pas simplement collectionner des détails phénoménologiques chez cette patiente, mais on peut, dans le cadre de possibilités cliniques, effectuer quelques examens ou tests avec la patiente. Donc, par exemple, si lorsque la patiente, on demandait à la patiente de regarder ses bras devant elle, il n'y avait pas de décorporation, mais il y avait une, comme j'ai marqué là, une illusion visuo-somatosensorielle de son propre corps. Elle avait donc l'impression que uniquement son bras gauche, donc contralatéral par rapport à la stimulation, était raccourci. Si elle regardait ses jambes, elle avait l'impression que ses 2 jambes sont raccourcies. Sans bien évidemment que nous, on a pu observer un mouvement de la patiente. Mais donc, il y avait un changement au niveau de la perception de son propre corps, d'aucun autre élément du monde physique, uniquement son corps visuel a été transformé ou ressenti d'une manière transformée. Et bien évidemment, uniquement pendant les 2 secondes. Donc ça suggère, vu qu'on stimule au même endroit, que la décorporation est peut-être aussi liée à un trouble de l'intégration multisensorielle. Donc si on prend l'exemple du bras, que je vois physiquement ici, mais subjectivement je le vois raccourci ici, donc il semble y avoir un trouble de l'intégration des sensations visuelles de ma main, mais bien évidemment avec les yeux fermés, on a tous l'impression de bien apercevoir la position de notre bras gauche en suspension comme ça, par des afférences d'autres modalités, somatosensorielles, toucher et la proprioception. Notamment, vu qu'ayant changé la posture de ses membres supérieurs lors de la stimulation, là on voit aussi que la proprioception est importante et a l'impression que la main va approcher son visage et évite, en fait, donc tout ça d'une manière subjective, la main qui approche la patiente. Finalement, il y a également des illusions kinesthésiques, donc avec les yeux fermés, il n'y a ni décorporation, ni transformation corporelle d'une manière visuelle, mais elle a l'impression de faire une sorte d'abdominaux, voilà, donc des exercices du tronc. Dernier point que j'ai oublié à mentionner tout au début, avec des courants encore plus faibles que ceux qui ont induit cette sensation de décorporation, on a des sensations vestibulaires. Et tout ça à un seul site qui nous a fait penser que là, on a affaire avec un endroit qui va intégrer ces sensations différentes, donc, venant des modalités vestibulaires, visuelles, tactiles et proprioceptives. Ici, une autre observation de Bruxelles, où, pour raison d'une tinnitus, une autre équipe a donc stimulé ces deux électrodes en vert que vous voyez ici. Ils ont également pu observer une décorporation chez cette patiente. Penfield, on avait observé dans le passé, en passant rapidement aussi au niveau de la jonction temporoparietale à droite. Ce qui est remarquable ici, les cliniciens ont pu faire aussi un examen de neuroimagerie, c'est-à-dire et puis on voit non seulement donc lié à la stimulation, et puis lorsque le courant est appliqué, on voit que le courant passe pas seulement dans le tissu cérébral directement sous l'électrode, mais on voit tout à fait un réseau déjà localement assez étendu, mais qui va propager aussi au niveau du cortex parieto-occipital mésial, mais aussi dans le cervelet. Donc on voit même avec des stimulations focales relativement vite aussi l'arrivée d'un réseau. Ici, des premières données datant de 2004, où 5 patients avec des troubles de la décorporation, donc chaque patient est représenté ici avec une autre couleur, et avec cette approche, on cherche en fait si chaque patient avec un trouble identique ou un phénomène ressenti en symptômes identiques, ici la décorporation, est-ce que la lésion cérébrale va converger vers une région ou vers plusieurs régions. Ce qu'on a pu observer ici, que chez 4 sur 5, à l'époque, on observe donc une implication de cette jonction temporoparietale, donc encore une fois, le lobe pariétal et la partie postérieure du lobe temporal ici. Récemment, avec Lucas Edrich dans l'équipe, on avait regardé ça dans un groupe des patients. Donc là, on a 9 patients actuellement, avec 8 sur 9, donc chaque patient de nouveau dans une autre couleur, on voit une implication de l'hémisphère droite. Et puis notamment aussi, si on va les superposer, les 8 patients avec une lésion droite, on voit de nouveau donc presque la région où ces deux observations cliniques ont pu, donc les deux cas de décorporation induites par stimulation électrique. Donc on voit vraiment une convergence d'un symptôme, ici la décorporation, et d'une illusion corporelle probablement liée d'une manière importante à cette structure, donc au niveau de la jonction temporoparietale, qui est d'ailleurs connue, je n'aurai pas le temps aujourd'hui d'aller plus en détail, d'intégrer des informations venant des modalités différentes, comme le toucher, la proprioception, le vestibulaire et la vision. Pour résumer donc cette deuxième partie, la partie clinique, la décorporation, ou « out of body experience » en anglais, est caractérisée par 3 phénomènes qui sont fortement pathologiques d'une manière spatiale. L'identification est avec le corps en suspension et pas avec le corps, comme un patient me disait, terrestre. La localisation, elle est également congruente avec le corps fantôme identifié. Également une suspension et la perspective de la première personne est également congruent et dirigée en fait et enversée de 180 degrés par rapport à la perspective de la première personne que physiquement le sujet devrait rapporter dans les situations normales. Nous avons donc proposé un modèle ici descriptif pour cette décorporation. Et ce modèle a été possible parce qu'on avait comparé donc avec la décorporation avec des phénomènes déjà décrits dans le passé, donc les otoscopies et des phénomènes otoscopiques que je ne vais pas évoquer aujourd'hui, que tous les 3 sont caractérisés par un trouble de l'intégration multisensorielle. Reprenez l'exemple du membre supérieur gauche, donc il y a des afférences tactiles, proprioceptives et visuelles. Donc, ces 3 régions différentes dans le cerveau au début. Je peux sentir mon bras ici et je peux le voir ici. Dans quelques situations, on peut induire cette illusion. Mais dans le cas normal, ces informations amène des informations congruentes au cerveau. Nous avons donc postulé, en faisant une extension de ce modèle pour le bras, pour le membre supérieur gauche, un modèle identique pour le corps entier. Parce que là aussi, je le vois, je le sens, et la proprioception joue un rôle aussi. Donc, le même problème doit être résolu par le cerveau, non seulement pour le membre supérieur gauche, mais aussi pour le corps entier. Deuxième point important, il y a aussi une désintégration des informations visuelles et vestibulaires. Notamment, c'est ce trouble vestibulaire qui donne, à mon avis, cette impression d'être en suspension et de regarder vers le bas. On va revenir à ce point tout à l'heure. Donc là, de nouveau, donc, la localisation des lésions qui donne lieu à des décorporations dans une autre coupe. Donc là, on voit que c'est variable, les lésions sont variables entre les électrodes, mais il y a notamment cette région ici, au niveau de la jonction temporoparietale, qui donne lieu à ce phénomène. Donc, on peut considérer, on propose que la décorporation, le corps ressenti, la localisation de la conscience de soi dans cette illusion, représente, pas un membre fantôme, mais un corps fantôme. Il s'agit d'une pathologie au niveau de la localisation de soi, de l'identification de soi et de la perspective de la première personne, et donc un trouble de la spatialité de la conscience de soi à la base corporelle. Et j'ai déjà évoqué ces deux types de désintégration. Comment est-ce qu'on peut induire? Donc là, comme je vous dis, 9 patients, ça ne semble pas beaucoup. La Suisse, c'est un pays petit. Même là, on devrait trouver plus que 9 patients. Si je vous dis en plus que ça, c'est une collection, si vous me permettez ce mot, qui dure depuis 10 à 12 années. Donc c'est très rare. Et comme j'ai commencé à travailler à l'École polytechnique, proposer comme thématique de recherche d'attendre que les gens arrivent avec, qui souffrent de cette décorporation suite à une lésion cérébrale, ce n'était pas vraiment un projet à proposer pour un chercheur jeune, dynamique, etc. Donc, on avait donc essayé de développer des stratégies expérimentales en utilisant la réalité virtuelle. J'étais jamais trop accro jeu d'ordinateur, même si on trouve maintenant, même dans la littérature scientifique, apparemment on devient des meilleurs statisticiens visuels si on joue beaucoup avec ces jeux. J'ai des jeunes enfants, peut-être je vais apprendre ça maintenant, 20 ans après. Mais autour de moi, à cette école polytechnique, il y avait un groupe de réalité virtuelle qui avait toute une gamme de technologies qu'ils ont utilisées plus pour des buts techniques, qu'on a donc pu, en collaboration, développer quelques stratégies pour induire des illusions corporelles en mettant en conflit un stimulus visuel et somatosensoriel. Une illusion qui était déjà décrite par un psychologue et un médecin américain, Botvinnik & Cohen, c'était la main en caoutchouc, ou the rubberhead illusion. Et puis avec cette illusion, on arrive à induire deux sensations qui sont assez intéressantes, notamment donc une sensation qu'une main de caoutchouc est ma propre main, et que si on touche cette main fautif en plastique, je localise le toucher, pas sur ma propre main, mais sur cette main en caoutchouc. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'expérimentation est extrêmement simple. J'aurais dû amener une main ici, comme ça, on aurait pu faire cette expérience ensemble. Le sujet expérimental est localisé ici. Le bras de cette personne est caché de la vue directe et se trouve donc à la périphérie, ici. Devant, il y a une main, enfin la fameuse main en caoutchouc que vous voyez ici en agrandissement, et l'expérimentateur, ici il y a l'engrenage du labo, donc on va toucher, caresser les deux mains, la main en caoutchouc et la vraie main en même temps. Donc on crée un conflit très très simple, très low-tech si vous voulez. Donc il y a un toucher visuel aperçu par le système visuel ici et un toucher tactile, réel, physique si vous voulez, à quelques centimètres, normalement on met une distance à peu près de 20 centimètres. Si vous voulez essayer ça plus tard dans la cuisine et chez vous, ça marche aussi avec des gants remplis, etc. Donc c'est vraiment pas important. Il faut grosso modo 5 doigts, une main, et ça suffit pour induire chez quelques sujets, pas chez tout le monde, cette illusion. Alors, on va stimuler donc ces deux mains, la main visuelle, si vous voulez, et la main tactile, et on va donc utiliser ce conflit, et les sujets, après une ou deux minutes de stimulation, vont rapporter que le toucher, qui est bien évidemment appliqué ici, qu'il soit ressenti ici. Donc l'introspection ne fonctionne pas du tout, on dirait là. Très facile, même après 30 secondes, d'enduire ces illusions. Deuxième sensation intéressante, ce n'est pas seulement le toucher qui est mal localisé, cette main aussi, chez quelques sujets, donne une sensation qu'elle est la mienne, qu'elle m'appartient. Bien évidemment, il faut ajouter des données comportementales. Là, on donne des questionnaires à des sujets. Donc là, si après, donc, je suis dans l'expérience, la main en caoutchouc se trouve ici, ma main elle est cachée ici, après, avec les yeux fermés, je dois pointer avec mon index sur mon index droite. Donc normalement, je vais faire cette réaction-là, mais dans la situation de la main en caoutchouc, je ne vais pas pointer ici, je vais pointer dans la direction, drifter, shifter dans la direction de la main en caoutchouc. Donc comme il y a une récalibration de la position de ma propre main. Et situation intéressante et de nouveau importante, il ne faut pas seulement trouver cette erreur de pointage, mais il faut aussi le contrôler, manipuler, qui est également assez facile à faire par la simple manipulation, qu'en fait les deux strokings, les deux caresses, ne sont pas appliquées en même temps, mais avec un petit délai d'une seconde entre les deux. À ce moment-là, le pointage est correct, donc le sujet va pointer correctement ici, et en plus, ces illusions ne sont plus présentes. Donc c'est ça, si vous voulez, façon courte, la rubber hand illusion, la main en caoutchouc. Donc il montre qu'on se trompe sur son propre bras gauche. Ce n'est pas seulement ces patients rapportés en 1924 par Petzel qui peuvent se tromper suite à des lésions importantes sur l'appartenance de leur partie du corps. C'est induisable dans chaque cuisine, si vous voulez, très facilement. Donc c'est presque la normalité qu'on se trompe sur son propre corps. Alors nous, pas de surprise, donc vu que j'ai proposé membre fantôme versus corps fantôme, on va essayer d'utiliser cette technique maintenant de la main en caoutchouc, de projeter ça et de tester si on peut induire une illusion de corps en caoutchouc. Le chercheur en question avait regardé un peu sur le net si rubber body illusion, ça sera le bon terme à utiliser, mais les types d'images qu'il a reçues en réponse n'étaient pas vraiment les bonnes. Donc nous, on a plutôt proposé d'utiliser le terme full body illusion, abréviation FBI, qui est aussi pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a utilisé comme setup? Le sujet expérimental est positionné ici. Il y a le goggles, le head-mounted display ici, donc une sorte d'écran directement devant les yeux du sujet pour éviter que le reste de la pièce est vu directement. Donc, qu'est-ce qu'il voit sur cet écran? Donc, il y a une caméra positionnée 2 mètres derrière, à une distance de 2 mètres. Donc, rappelez-vous, à peu près 2-3 mètres, c'est la distance d'où est le déplacement ressenti lors d'une décorporation. Et cette caméra, avec 3D, va donc filmer le corps avec ce point de vue drifter ou de 2 mètres derrière. Donc ce que le sujet voit, bien évidemment, c'est un corps qu'on peut appeler virtuel ou visuel qui se trouve 2 mètres devant son propre corps. Et pas de surprise, donc très simpliste, on a appliqué un stimulus tactile sur le dos que le sujet, comme dans la au comparable par rapport à la main en caoutchouc, va donc voir 2 mètres devant. Donc là, il y a le conflit qu'on vient de voir dans la main en caoutchouc, il est également proposé au niveau du corps entier, donc un stimulus tactile appliqué et ressenti ici, et un stimulus visuel sur son propre corps, vu sur son propre corps à 2 mètres de distance. Et donc on avait une manipulation très similaire, des questions très similaires par rapport à la main en caoutchouc. Par exemple ici, la question d'identification avec le corps. I felt as if the virtual body was my real body. Et les deux premières questions, en fait, on a remplacé le mot bras par corps entier, que le toucher était ressenti là où je vois mon corps touché et pas où je le sens. Donc on voit ici cette question, la première question par exemple, dès que la stimulation est appliquée d'une manière synchronisée, on voit une localisation de toucher là où je vois la sensation, le dos touché. Donc je ressens d'une manière très forte le toucher localisé où je le vois, pas où je le ressens. Et cette sensation va fortement être diminuée lorsqu'il y a une asynchronisation entre les deux stimuli, donc visuel et tactile. L'identification également, elle montre cet même effet, c'est-à-dire plus fort dans la stimulation synchronisée, donc je vais m'identifier avec ce corps virtuel, mais significativement moins dans la situation asynchronisée. On ne pourrait bien évidemment pas demander au sujet de montrer suite ou après l'illusion vers leur corps, comme c'était possible pour le bras, parce que voilà, ça sera logiquement toujours juste, je pense, par le sujet. On n'a jamais testé. On a donc pris une technique de la perception vestibulaire. Donc, suite ou après cette stimulation d'une minute ou de deux minutes, le sujet était déplacé de manière passive, à peu près 1,5 mètre en arrière, et puis sa tâche était simple après, de simplement retourner à la position. Notre prédiction était, comme pour la main en caoutchouc, si, comme la main, dans le cas de la main en caoutchouc, donc le sujet s'était récalibré où il sentait la position de son bras liée à une visual capture. Qu'est-ce que c'est en français ? D'une dominance de la modalité visuelle sur les afférences tactiles. Donc, on avait prédit que le sujet va aller trop loin. Vu qu'il y avait une identification avec le corps 2 mètres devant, si on doit se localiser et récalibrer la position de son corps dans l'espace, donc pour le bras, c'était shifter, drifter vers cette main en caoutchouc, donc ça devrait être également présent potentiellement dans cette étude. Donc c'est ça qu'on avait mesuré et notamment on a pu observer ça, donc une récalibration de ma position ressentie dans l'espace aussi. Donc là c'est pas bien scanné, mais c'est 30 cm dans la situation synchronisée et d'une manière significativement moins, l'ordre de 10 à 15 cm dans la situation asynchronisée. Notamment uniquement 7, ce drift était significativement différent de la position 0, donc ça sera le cas si le sujet va retourner directement à sa position. Et puis les sujets sont pas seulement, c'est pas un problème de variabilité. On pourrait dire que c'est difficile de retourner vraiment à la position avec les yeux fermés où on était. Mais là, les données sur la droite, c'est la déviation droite et gauche. Et là, on voit que les sujets se sont extrêmement précis sur cet axe orthogonal. Ils savent où aller, mais ils vont aller trop loin. On a ajouté plusieurs conditions de contrôle que je ne vais pas détailler ici. Cette situation ici est intéressante. Là, on a donc pris comme condition contrôle un objet rectangulaire. Rectangulaire, grosso modo, avec les dimensions du corps humain. Et puis le stimulus était appliqué, filmé au niveau de cet objet et en même temps sur le dos du sujet. Mais là, le sujet voyait sur son head-mounted display uniquement l'objet. Donc on sent le toucher tactile dans le dos, mais on voit 2 mètres devant, comme c'est représenté ici, un objet virtuel qui est filmé par la caméra. Et là, on voit qu'il n'y a ni l'illusion, ni une différence entre la stimulation synchronisée et asynchronisée dans cette situation où, dès que je vois un corps, un autre corps, donc là c'est réellement un corps en caoutchouc, stimulé en même temps que je sens les sensations dans mon dos, où on retrouve le même effet que je viens d'évoquer si mon propre corps est filmé lors de l'illusion. Donc là, pour conclure cette troisième partie, donc on voit que les sujets sains, d'une manière systématique, vont s'identifier avec un corps virtuel qui est manipulé d'une manière synchronisée entre les stimulations tactiles appliquées sur le dos et visuellement sur un dos qui est caressé 2 mètres devant. avec d'autres situations et conditions expérimentales, on a dissocié, on a pu exclure que ces troubles sont liés à des biais moteurs ou attentionnels. Et ça suggère effectivement que la localisation de soi ou l'identification de soi sont en relation ou associées avec des mécanismes corporels, visuaux et somatosensoriels. Et puis, ça, c'est pas vraiment comme c'était représenté parfois dans la presse, une recherche afin de comprendre qu'est-ce qui se passe dans les sensations de sortie du corps, mais c'est plutôt important pour comprendre ce qu'il va nous mettre déjà dans le corps, pour commencer. Parce que ces données montrent aussi quelles tâches fantastiques le cerveau est capable de résoudre. Comment nous mettre dans notre corps, déjà, in the first place. Je pourrais marcher, courir. Comment c'est possible que le corps et la représentation du corps dans le cerveau va intégrer toutes ces informations avec une précision énorme que le cerveau arrive à vraiment garder, bien titrer cette représentation du corps. Parce qu'on voit ici jusqu'à quel point c'est simple de dissocier cette sensation. La prochaine fois, vous faites du ski, alors comment le cerveau arrive à intégrer ces informations ? Je pense que la parapsychologie devrait plutôt s'intéresser exactement à cette question. Comment ça se fait que la conscience de soi soit si bien localisée par notre cerveau ? Probablement, on ne sait pas encore comment, mais comment c'est intégré avec cette haute précision spatio-temporelle. Il y a d'autres études que nous effectuons actuellement avec ce même paradigme. Par exemple, quelque chose que j'aime bien, il y a une réduction assez importante de la perception de la douleur lorsque vous avez cette illusion. Donc, si vous voulez, si par un biais expérimental, on va vous sortir de votre corps, ou là, cette représentation de dipséité, on va la sortir du corps, on va la mettre partiellement dans un corps virtuel. Si on va appliquer des stimuli douloureuses à votre corps physique, ils sont ressentis d'une manière moindre. Et ce n'est pas négligeable, c'est l'ordre de 20% qui est une augmentation de ces seuils. C'est le travail de Jane aussi, je crois que j'ai un diapositive après, que aussi les stimuli tactiles appliqués à ce corps lors de cette illusion sont également moins bien détectés. Ça, c'est un trouvaille assez important parce que si vous regardez les données que je viens de présenter, on va manipuler pendant 2 minutes, mais on ne va pas acquérir les données pendant cette phase qui est importante. On va donner des questionnaires après et on ne va pas utiliser les techniques de la psychologie expérimentale comme il faudra, avec les temps de réaction, avec la précision, avec la psychophysique. En fait, on va uniquement regarder après où ce sujet se localisera. Mais là, donc les travaux de Jane Aspel montrent en fait assez bien que la rapidité de détecter les stimuli tactiles, donc là, il n'y a pas de possibilité que le sujet va influencer de son propre gré ces données, mais le sujet va être accéléré et ralenti selon notre façon, donc selon l'expérimentateur, avec quelle façon il va effectuer la caresse visotactile. Et puis là, juste les données sur la douleur. Donc, le setup était pareil. Donc, le sujet est ici. La douleur était appliquée avec une pression au niveau de l'index. Et c'est ça que le sujet va voir. Et puis là, dès que l'objet est touché, donc la même condition de contrôle que tout à l'heure, il n'y a aucune modification de la douleur. Mais par rapport à ces deux conditions, on voit une nette augmentation de la douleur, et notamment dans la situation où la stimulation visotactile est effectuée de manière visotactile. Donc cette condition qui va induire les changements de l'identification de soi avec ce corps virtuel. Alors, dernière partie de ma présentation. Comment on va maintenant effectuer donc une recherche en associant à cette technique de sciences cognitives que j'ai évoquée en utilisant les techniques de la neuroimagerie, l'IRM fonctionnelle. Donc là, comme vous savez, probablement, on est couché dans un scanner, on est sur un lit. Et puis, comme vous voyez ici, l'espace est assez serré. Donc là, la psychologue, elle n'était pas d'accord de se glisser ensemble avec ce sujet dans ce scanner pour effectuer les caresses qui sont filmées de 2 mètres derrière, donc ce n'est pas possible. Donc on avait eu la chance, un autre ingénieur à l'école polytechnique, très intéressé, Roger Gassert, par la neuro-réhabilitation et la réhabilitation à la base des outils robotiques. Il nous a donc construit, custom-made, je crois que j'ai une petite vidéo, une stimulation, donc le sujet est couché donc ici, ça s'est glissé à l'intérieur, et vous voyez ici une petite balle qui va glisser dans le dos du sujet, qui va être confortablement positionné sur ce lit dans le scanner, et je ne vais pas vous donner les détails, mais il s'agit d'un moteur ultrasonique, donc complètement IRM compatible, qui est également quelque chose à résoudre. Qu'est-ce qu'on voit dans cette étude? Qu'est-ce que le sujet va voir? Donc on avait avec ce même robot filmer le corps de quelqu'un d'autre. Donc imaginez-vous que vous êtes ici, on caresse par un robot votre dos, et le même profil de mouvement est appliqué à un corps visuel qui semble flotter sur vous dans le scanner. Bien évidemment que le sujet a vu qu'il n'y a pas assez d'espace, mais on a effectué ça, donc vous voyez, et puis on avait effectué donc, la stimulation de manière synchronisée ou asynchronisée entre ces deux conditions. Il y avait aussi une condition de contrôle où le même robot a été utilisé pour créer une film sans le corps visuel. Et bien évidemment, on avait émis comme hypothèse que, essentiellement dans cette situation corporelle, on devrait induire aussi des changements d'identification et des troubles de localisation, des changements de localisation. Je vais faire un peu vite. Au niveau comportemental et au niveau des questionnaires, on a pu, donc avec cette stimulation robotique, induire exactement les mêmes phénomènes. C'est-à-dire identification avec ce corps de quelqu'un d'autre qui était stroqué visuellement par le robot. Donc je vais m'identifier avec ce corps, notamment dans la situation synchronisée. Et puis on avait, bien évidemment, on ne pourrait pas utiliser notre manipulation de localisation de soi, mais on a fait une tâche d'estimation d'altitude à l'intérieur du sujet. Donc le sujet était, on demandait au sujet d'estimer son altitude par rapport au sol, par rapport au sol du scanner qu'on voit ici. Et puis on avait bien évidemment la prédiction que dans la situation synchronisée, on devrait observer donc une augmentation de cette estimation. Notamment, c'était ça qu'on a pu observer. En tout cas, dans un groupe des sujets, on voit ici donc estimation d'altitude. Donc le plus bas c'est ici, le plus haut ça sera vers les 1400. On voit dans la condition synchronisée, donc synchronisée entre stimulation visuelle et tactile, on voit une augmentation ou une estimation plus élevée de son propre corps, représentée ici par le corps dans les pantalons en gris, et dans la situation stimulation asynchronisée. C'est moins élevé et significativement différemment jugé par rapport à la stimulation synchronisée. On avait encore un autre groupe des sujets que je ne vais pas mentionner ici parce que le temps est malheureusement trop avancé. Et je vais vous montrer ici donc le réseau neuronal qui était activé par ce conflit. Et on voit qu'on trouve 7 régions qui réagissent à ce conflit à travers ces 4 conditions, avec ces facteurs synchronie de la stimulation visotactile et présence de corps ou pas présence. Donc les 7 régions nous montrent, sont activées vis-à-vis en conditions de base, où c'est simplement la fixation d'un écran blanc. Et si on regarde maintenant à travers ces 7 régions, on trouve qu'au niveau de la jonction temporoparétale à gauche et à droite, on voit un pattern d'activité cérébrale qui reflète la localisation des sujets, donc cette estimation vis-à-vis le sol dans le scanner. Donc on voit, si je répète, donc dans une situation synchronisée ici et synchronisé ici, le signal, l'activité dans cette région, elle montre une différence. La même différence est également présentée ici. Si vous comparez pour ce groupe, donc je n'ai pas du tout parlé de ce groupe-là, mais si vous parlez de ce groupe-là, donc les sujets sont couchés dans le scanner, ils regardent vers le haut, il y a le corps visuel qui est vu, donc on voit une réaction inverse du signal dans la jonction temporoparétale à gauche et à droite par rapport à les temps de réaction, de cette estimation, cette récalibration de la position de son corps qui est également reflétée d'une manière inverse par l'activité dans la jonction temporoparétale à gauche et à droite. Donc on a une représentation assez directe dans cette région, donc une représentation de ce conflit dans cette région temporoparétale gauche et droite, mais pas dans les 5 autres régions que j'ai présentées. Donc peut-être il y en a assez de temps pour les questions, donc je pourrais en revenir par la suite. Si on veut juste comparer ici, projeté sur l'hémisphère droite, non seulement l'activité IRM que je viens de vous décrire, mais aussi la localisation cérébrale chez les patients avec décorporation. Donc on voit qu'il n'y a pas de superposition, mais on voit quand même que ces deux régions sont vraiment des voisins au niveau de la jonction temporoparétale, comme j'évoquais déjà, qui est connue d'intégrer des informations multimodales. Donc ici, nous avons proposé aussi à cause d'un autre groupe qu'on a pu observer qui ont réagi d'une manière différentielle dans cette manipulation robotique à la stimulation, qu'on a trouvé donc d'une manière expérimentale des données qui corroborent le modèle de décorporation qui était déjà proposé dans le passé. Ici, je vous montre une image donc assez connue d'Ernst Mach dans son analyse des off sensations, où on voit effectivement que la perspective n'est pas seulement cette perspective de la première personne, bien évidemment pas une perspective visuelle, mais il s'agit déjà d'une vision très spéciale, moustache de Vienne, fin du 19e, on voit le nez, on voit les sourcils, on voit le bras droit, et on voit bien évidemment, presque comme en cadre du reste du monde aussi, une partie du corps. Donc là, je trouve que c'est une belle image qui dit que la vision, dès le début, doit être intégrée avec le corps ou avec d'autres modalités, bien évidemment aussi. Mais on voit à travers les sensations de décorporation et cette manipulation de sciences cognitives et de l'IRM que cette perspective, elle doit être générée. Comme je disais, il y a un inside body experience qui doit être construit, représenté et calculé par le cerveau. Et la décorporation montre d'une manière flagrante que cette intégration ne peut pas avoir lieu, sous une forme connue, que nous connaissons tous, que nous avons actuellement, donc le cas normal. Je vous invite également si ça vous intéresse, la relevance de ces trouvailles au niveau Philosophy of Mind, donc un article que j'ai fait en étroite collaboration avec un philosophe, Thomas Metzinger, où dans l'article, on révisite les 3 points que je viens d'évoquer, donc localisation de soi, perspective de soi, identification de soi, et l'hypothèse de cette conscience de soi corporelle, pour finir. J'ai évoqué d'autres approches vers la conscience de soi. L'idée est qu'il s'agit là vraiment d'une capacité fondamentale que l'homme va partager certainement, et s'est déjà trouvé avec des animaux, qui pour moi c'est un grand avantage parce qu'on peut tester beaucoup d'autres phénomènes avec une expérimentation chez l'animal, étroitement avec des avances chez l'homme. Souvent, on entend que la conscience de soi, c'est trop complexe, c'est trop compliqué à étudier. Moi, je pense que la conscience de soi est un sous-problème de la conscience en général, c'est déjà le mot qui le dit. La conscience de soi, corporelle en tout cas, il faut la voir comme conscience visuelle, comme conscience tactile, comme conscience auditive, un sous-problème. Et c'est plutôt la conscience, peut-être, en termes généraux, qui doit être peut-être un problème très complexe, en tout cas plus complexe que la simple ou la plus simple conscience de soi, à mon avis. Il ne faut pas me mécomprendre, je ne cherche pas à trouver un petit homme ou une petite femme qui est à l'intérieur du cerveau, qui va regarder, comme c'est dessiné ici, le film multimodal projeté par toutes ces régions. Donc on ne cherche pas un centre qui va unir toutes ces sensations. J'évoquais la conscience visuelle, mais déjà en perception visuelle, c'est une image très fameuse par Van Essen, on voit qu'il y a une trentaine de régions déjà impliquées dans la perception visuelle. Dans la perception corporelle, la conscience de soi corporelle, comme j'évoquais, il s'agit d'une intégration multimodale. Donc certainement, ça sera plus de régions, mais notre raison de chercher et d'effectuer des travaux cliniques expérimentaux et neuroimagerie, ça sera de trouver néanmoins à l'intérieur de ce réseau énorme quelques régions clés avec quelques fonctionnalités clés. Merci.